La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques, à partir de 50 $ par semaine.
Il y aura bientôt une nouvelle Mini Cooper disponible sur le marché. 300 milliards de dollars US sont investis dans le développement des voitures électriques et hybrides. La Tesla Model 3 a le meilleur score de sécurité pour une voiture en Europe. 4,6 millions de dollars à Petro-Canada pour construire 92 bornes de recharge rapide dans ses stations-service. Apprenez où se situe la borne de recharge rapide la plus au nord du Québec. Harley-Davidson va donner 500 kWh d'énergie à ses clients qui achètent la nouvelle Harley électrique. On parle de longs voyages en voiture électrique à l'aide de trois de nos invités. Stéphane Nevers nous parle des Tesla Model 3 qui peuvent se brancher au BRCC, Claude Gauthier de son nouvel ami Adrien Pouliot. Tout ça et bien plus encore dans ce 61e épisode de Silence on roule. Chanson qui nous rappelle que c'est le temps des vacances. Hein, quand on entend les Beach Boys, on pense à la plage, on pense au plaisir de l'été. Et j'espère que c'est un peu le sentiment que vous avez actuellement. Pour beaucoup de gens, on est à l'aube des vacances. En tout cas, moi, je suis à l'aube des vacances. C'est le dernier podcast avant la petite pause de l'été. On va faire relâche pendant deux podcasts. Dans le fond, on saute deux podcasts. Donc, on va vous revenir uniquement dans un mois, un petit peu plus d'un mois. J'espère que vous m'en voudrez pas trop, mais je suis dû pour des vacances, dû pour me reposer en famille. D'abord, passer du temps avec les miens. Et puis, me ressourcer un peu, prendre un peu d'énergie pour être capable de vous revenir là fin du mois d'août avec des nouveaux sujets, des nouveaux épisodes qui sauront, je l'espère, vous satisfaire et répondre à vos besoins et vos attentes. Je remercie tous les auditeurs qui nous écoutent au fil du temps. Ils s'en joignent de nouveau à toutes les semaines, à tous les épisodes. Je suis vraiment surpris de la popularité que prend le podcast. Écoutez, les abonnements augmentent tout le temps. Puis je pense que ça prouve que le but qui était visé par le podcast, qui est de donner une information neutre et juste à tout le monde, bien, ce but-là est atteint. Les gens ont de l'intérêt, se passent le mot et puis se joignent à nous. Justement, dernièrement, on a un auditeur, M. Gilles Marchand, qui était en vacances à Natashquan et qui a pris le temps de m'écrire pendant que sa Tesla se rechargeait sur une borne niveau 2. Évidemment, avec la grosseur de batterie d'une Tesla et la vitesse d'une niveau 2, on peut comprendre qu'il y avait un peu de temps devant lui. Il en a profité pour écouter des podcasts et en même temps nous remercier pour le travail qui est fait. Ben, M. Marchand, merci beaucoup de nous écouter. Merci beaucoup de vos bons commentaires. Comme je me plais souvent à le dire, c'est mon seul et unique salaire. Je vous rappelle que si vous aimez le podcast, il y a deux façons très simples de nous aider. La première, c'est d'aller sur iTunes et puis de coter le podcast. Donc, on peut mettre 1, 2, 3, 4 ou 5 étoiles. En mettant 5 étoiles et un petit commentaire positif, vous aidez à faire à augmenter la cote globale du podcast et le faire remonter dans la liste des podcasts populaires. Puis en même temps, bien, ça fait en sorte que plus de gens le voient et y ont accès. Donc, c'est une façon simple. L'autre façon, c'est d'en parler à chaque fois qu'il y a un podcast qui sort, soit sur la page Facebook de Silence on roule. Là, si vous n'êtes pas abonné à notre page, vous tapez Silence on roule, le podcast, vous allez avoir accès là, à notre page Facebook. Vous pouvez vous y abonner ou via la page web de l'AVEC ou la page Facebook de l'AVEC. Et quand on sort un nouvel épisode, ben republiez cet épisode-là sur votre page Facebook. Parlez-en sur votre page Facebook de façon à ce que vos amis puissent savoir que notre podcast existe et ainsi s'y abonner à leur tour. Écoutez, on a un épisode aujourd'hui, oh ma foi, très, très, très chargé. On est à l'aube des vacances, on va donc parler de voyage, on va parler de grandes distances. Des gens là, qui ont fait des milliers de kilomètres avec leur voiture électrique, d'autres un peu moins quand même, mais quand même on va parler de grandes distances en voiture électrique. On a plusieurs invités qui vont nous en parler. On va parler de tout ça. On a des chroniqueurs aujourd'hui qui sont là pour nous parler également. Claude Gauthier, Stéphane Levard. Donc, vous allez voir, on a un bel épisode bien rempli. Mais avant d'aller plus loin, on va tout de suite aller écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. Pour les amateurs de petites voitures, tout ce que les fans de la Mini ont adoré du premier effort électrique de la société pourra être retrouvé dans la nouvelle Mini qui sera plus sportive avec une réponse plus rapide de leur groupe motopropulseur et d'un centre de gravité plus bas. La plus grande amélioration réside dans le fait que la nouvelle Mini Cooper SE possède une banquette arrière au-dessus de la batterie de 32,6 kWh qui repose principalement sous le plancher de la banquette arrière. C'est moins d'espace que la batterie 35 kWh qui prenait la majeure partie de l'arrière de la Mini E d'origine. Selon la compagnie, l'autonomie de cette nouvelle voiture sera de 240 à 270 km environ en Europe, en conduite sur route et en ville. Lorsque l'évaluation finale de l'EPA sera connue aux États-Unis, l'autonomie sera probablement moindre, puisqu'on sait que l'évaluation EPA est un peu moindre que l'évaluation européenne. La Mini peut se recharger sur les bornes de recharge rapide CCS Combo de 50 kW, ce qui devrait lui permettre de recharger à une vitesse de 130 à 145 km en une demi-heure. Pas facile de miser son économie sur les hydrocarbures, du moins au Canada. Une analyse de l'agence de presse Reuters a récemment rapporté que de la trentaine des principaux fabricants automobiles du monde, ils ont annoncé jusqu'à 300 milliards US d'investissements dans des véhicules électriques ou hybrides, à raison, entre autres, d'environ 140 milliards pour des compagnies allemandes, 57 milliards par les Chinois, 29 milliards par les Américains, 24 milliards par les Japonais, puis finalement 20 milliards par les Sud-Coréens. À cet égard, le Canada n'est plus dans la course pour l'exploitation pétrolière, en dépit du fait qu'il arrive au troisième rang des plus grandes réserves pétrolières du monde. C'est ce qu'estiment les analystes, qui en veulent pour preuve la tendance des dernières années au désinvestissement dans le secteur pétrolier canadien. Des 400 milliards d'investissements dans des méga-projets liés aux hydrocarbures qui avaient été annoncés au cours de la présente décennie au Canada, il y en a seulement un quart qui semble cheminer sans trop d'encombre vers leur réalisation. Alors que pour les 300 milliards restants, les difficultés se multiplient, qu'il s'agisse d'opposition environnementale, tant pour l'extraction que pour la construction des pipelines, ou d'une viabilité financière de plus en plus incertaine. Je peux pas dire que c'est une mauvaise nouvelle. Les voitures Tesla ont toujours eu une excellente cote de sécurité et ça n'a pas changé. Le Model 3 remporte les meilleurs scores de sécurité en Europe. Le programme européen d'évaluation des voitures neuves a annoncé la semaine dernière les résultats sur des tests faits avec une Model 3 de 2019 et lui a attribué le score global le plus élevé en 2019 pour l'ensemble des tests, incluant la protection des occupants et des piétons en cas de collision et sa technologie de prévention des collisions. Aux États-Unis, la Model 3 a obtenu 5 étoiles de la NHTSA dans les collisions frontales, latérales et par renversement. Ferrari, il a également obtenu 5 étoiles dans toutes les positions des passagers testés dans tous les tests fédéraux. Ottawa a annoncé l'octroi de 4,6 millions de dollars à Petro-Canada en vue de la construction de 92 bornes de recharge rapide pour véhicules électriques dans son réseau pan-canadien d'approvisionnement en carburant traditionnel. Celui-ci doit ultimement compter sur plus de 50 points de recharge comportant chacune deux bornes. La multiplication des points de recharge pourrait inciter encore davantage de transporteurs à se tourner vers les camions électriques et ainsi accélérer la transition. Où peut-on se charger le plus au nord possible au Canada? Eh bien, c'est dans un stationnement de l'hôtel Fermont, à 1227 km au nord de Montréal, qu'on trouve la station de recharge publique la plus au nord de la province de Québec. Seule une borne publique répertoriée à Yellowknife, dans le territoire du Nord-Ouest, est plus près du centre arctique que celle-ci. Ce qui attire quand même les touristes, puisqu'elle représente le bout de la route pour les propriétaires de véhicules électriques. Dans un précédent podcast, on a parlé de la nouvelle Harley-Davidson électrique. Eh bien, Harley a annoncé jeudi dernier qu'elle fournirait en promotion pour la première année l'équivalent de 500 kWh de recharge gratuite sur le réseau Electrify America aux clients qui achèteront sa nouvelle moto électrique Livewire. Harley a développé son Livewire depuis 2014 et annoncera enfin qu'il sera mis en vente le mois prochain au prix de 29 799 américains plus frais de livraison. Honda présente cette année sa première voiture conçue pour être entièrement électrique, mais ce n'est que pour le marché européen pour l'instant. Maintenant, le constructeur japonais dit qu'il offrira des voitures électriques aux États-Unis via une nouvelle plateforme, mais cela pourrait prendre encore quelques années avant de se matérialiser. Honda vend déjà la Clarity EV aux États-Unis et au Canada, mais c'est une voiture impopulaire. La Honda E a été lancée en Europe, une citadine toute électrique, plus attrayante, mais le constructeur n'a pas l'intention de l'offrir aux États-Unis et au Canada pour l'instant. Du moins, la compagnie envisage plutôt d'offrir davantage de véhicules 100% électriques aux États-Unis. Ces véhicules devraient être plus gros que ce que Honda prévoit faire pour le marché européen.
La mission de l'AVEC se résume comme suit. Donner une information neutre et objective aux électromobilistes actuels et futurs, tout en représentant leur intérêt auprès des acteurs du milieu. L'AVEC se veut aussi un acteur stimulant en matière de politique québécoise en transport électrique avec plusieurs participations à des commissions parlementaires. Elle est également une référence en électromobilité pour de nombreux médias québécois. Ce que vous pouvez faire pour l'AVEC? Si vous avez une bonne plume, nous recherchons des rédacteurs. Si vous êtes propriétaire de véhicules électriques, participez à nos forums pour partager votre expérience. Vous connaissez un propriétaire de véhicules électriques? Faites-lui connaître notre site. Vous connaissez un vendeur de véhicules électriques? Laissez-lui notre carte d'affaires. Vous voulez installer une borne chez un commerçant ou au travail? Consultez nos guides. Vous voulez vraiment nous faire plaisir? Devenez membre de notre association. Vous voulez devenir partenaire ou annoncer sur notre site? Contactez-nous à info@aveq.ca. L'Association des véhicules électriques du Québec, la référence en électromobilité.
On est déjà à l'aube des belles journées chaudes d'été. Il commence déjà à faire pas mal plus chaud, puis si c'est pas déjà fait, ben la plupart d'entre vous est en train de regarder pour vos vacances d'été. Qui dit vacances dit déplacement en voiture, dit souvent de plus longs déplacements. Et on a pensé refaire cette année encore le sujet de longs déplacements en voiture, mais cette fois-là, on y va, comme on dit par chez nous, avec du long shot. Donc, j'ai fait appel là, à des électromobilistes qui vont faire assurément plus de 800 km pour leur déplacement. Alors, j'ai avec moi en onde deux de ces grands voyageurs. Donc, j'ai Christian Pelletier. Bonjour, Christian.
Bonjour, Martin.
Et j'ai Joël Côté. Bonjour, Joël.
Allô, Martin.
Donc, tous les deux, vous vous apprêtez là, à faire, et vous avez peut-être même déjà fait des longs voyages, et c'est le but de notre discussion d'aujourd'hui. D'entrée de jeu, pour qu'on se situe bien dans quel contexte tout ça se fera. Christian, quel type de voiture t'as, toi, actuellement?
Moi, c'est une Tesla Model 3, la grosse batterie de 500 km d'autonomie.
OK, donc une long range, comme on dit par chez nous.
C'est ça.
Et toi, Joël?
Moi, j'ai une Model S 2013 avec une 60 kWh, une vraie 60 kWh. Donc, c'est la plus petite autonomie possible chez Tesla.
Excellent. Oui, puis c'est une voiture qui a quand même quelques années, quand même 2013. Donc une voiture
c'est dans les 10 000 premières.
Oui, excellent. Donc, deux Tesla, deux voitures, mais qui n'ont pas tout à fait les mêmes caractéristiques. Ça va être intéressant de regarder ça dans cet angle-là. Et juste pour situer vos points de départ, Christian, tu pars de quelle région du Québec? Pas besoin de me donner la rue, là, juste la ville ou la région.
De Gatineau.
Et toi, Joël?
En Abitibi.
D'Abitibi. Excellent. Donc... Joël, commençons par toi. Le long voyage en question, toi, c'est où est-ce que tu t'en vas avec ça?
Moi, j'ai été cet hiver en Californie. Fait que le point le plus éloigné, c'était San Francisco. Fait que j'ai passé par tout près de la frontière du Mexique, par le Texas. Fait que c'était pendant les temps froids, là.
OK. Les temps froids ici ou les temps froids là-bas?
Ici et là-bas.
OK. La ride au total, donc, de ton départ de l'Abitibi, j'imagine, aller jusqu'à San Francisco, puis ton retour, tu as totalisé combien de kilomètres dans ton périple?
12 800 kilomètres.
Et tu as fait ça en combien de temps?
18 jours. Puis ça, c'est en famille. Là. Donc, c'est deux adultes, un enfant de 7 ans et un lit Dream Case. Le lit qui est fait pour adapter le fond de la voiture pour se transformer en lit, en fait. Là. Fait qu'on a dormi dans l'auto 6 nuits.
Wow, OK. Là, c'est vraiment la grande aventure.
Oui, oui.
Excellent. On revient à toi, ça ne sera pas long, Joël. Christian, toi, dans ton cas, c'est quoi le long voyage en question?
Bien, nous, on planifie faire un voyage cet été, aller de partir de Gatineau jusqu'à Wildwood, au New Jersey. Fait que c'est juste un peu moins que 900 km. Fait que vraiment moins que Joël, mais il y a une petite escapade en famille de notre côté aussi.
OK. Donc, 900 km, vous allez faire ça. Donc, vous autres, c'est pas juste un périple, un genre de tournée. Vous allez là-bas pour passer une semaine ou deux sur le bord de la
exactement.
Mer.
Exactement.
Donc,
on va aller à la mer.
Vous vous rendez en quelques jours, vous passez le temps là-bas, puis vous revenez au bout de quelques jours.
Ouais, on pense le faire en une journée, quand même une grosse journée. Là. On est habitué un peu à faire de la longue route. Les enfants, on en fait quelques fois par année, des fois. Donc, on pense le faire en une journée, se rendre d'un coup, puis après ça, passer une semaine à justement à Wildwood, puis revenir par la suite.
OK, excellent. Donc, il y a plusieurs questions qui me viennent à l'esprit, puis on va essayer de regarder ça en même temps. Vous avez tous les deux des voitures Tesla, donc en partant, votre planification de recharge repose, j'imagine, essentiellement sur les superchargeurs Tesla. Joël, de ton côté, pour ta longue ride jusqu'en Californie, aller-retour, est-ce que tu t'en es tenu au chargeur Tesla ou tu as utilisé d'autres infrastructures de recharge de d'autres compagnies?
Pour les États-Unis, seulement les superchargeurs et des bornes de destination Tesla, mais vu la situation géographique, c'est toujours compliqué de l'Abitibi par à peu près tous les côtés. Mais là, j'ai passé par l'Ontario, fait que j'ai utilisé le réseau KSI à deux reprises, puis une borne Flow au Canadian Tire de London au retour.
Comment a été ton expérience avec les bornes KSI?
C'est bizarre parce que ici, la plus près, c'est à Temiscaming Shores. On appelle ça New Liskeard. Un Tim Horton, je m'attendais à avoir comme 25 kW, puis arrivé là, j'avais légèrement au-dessus de 40 kW de puissance, fait que ça a été très bien, là, puis il faisait moins 25, fait que j'étais bien content d'avoir ça comme première borne de recharge. Ensuite de tout ça, c'était North Bay. North Bay, ben là, avait l'air d'être limitée. C'était la même borne ABB, mais avait l'air d'être limitée. Là, je pense qu'on avait 19 kW. Là. Fait que là, ça, c'était pas mal moins plaisant parce qu'elle est chargée à minute. Puis pneus à clous, ouais. Chargés, le froid, puis tout. C'était, dans le fond, c'était la seule petite difficulté parce que pour le reste, c'était vraiment pas compliqué.
OK. Et toi, Christian, dans ta planification, prévois-tu utiliser essentiellement des superchargeurs?
Oui, le réseau de recharge de Tesla, oui, parce que c'est quand même bien développé, surtout aux États-Unis. Peut-être rendu sur place, là, peut-être prendre des bornes locales, là, peut-être de d'autres compagnies, mais sinon pour la grande route, pour se rendre, oui, le réseau Tesla.
Okay. Une question qui revient souvent, puis on se la fait poser régulièrement, quand vient le temps de planifier ces voyages-là, forcément, j'imagine qu'on doit, si c'est pas revoir notre itinéraire, à tout de moins s'assurer que notre itinéraire est supporté par ces bornes de recharge-là, c'est-à-dire que les routes qu'on va prendre, les chemins qu'on va prendre, on doit s'assurer qu'à toutes les X centaines de kilomètres, on aura un superchargeur pour être capable de faire le plein. Avez-vous utilisé des outils particuliers pour planifier les différents arrêts de recharge que vous alliez faire ou vous êtes parti sans planification puis vous avez laissé faire le système de navigation de Tesla pour déterminer où vous étiez pour arrêter vous charger? Dans ton cas, Joël, comment tu as fait ça?
Ah, moi, c'était presque improvisé. Même ma copine me l'a quasiment reproché là, parce que la journée avant le départ, c'était soit Toronto ou Niagara, puis c'était un ou l'autre au retour ou à l'aller. coup de tête un peu Niagara, puis j'ai suivi. J'étais un peu aussi tanné de l'hiver, là, comme un peu tout le monde. L'hiver était dur cette année, fait que la direction c'était sud. Jusqu'à concurrence, comme maintenant, fallait s'en aller vers l'ouest. Là. On avait besoin de chaleur. Fait que j'étais allé vers le sud, puis je me suis retrouvé au Texas avec mes pneus à clous, puis dans le désert.
il devait te regarder un peu là-bas. Ça doit pas être le genre de pneus qu'ils mettent souvent dans le désert.
Non, puis en plus, au départ, j'avais pensé l'éviter parce que c'est un des rares états où c'est clairement indiqué que c'est banni, là, mais non, finalement, j'ai pas eu de problème. Puis ça, c'était vraiment le gros dilemme. Là. Au départ, j'avais préparé mes pneus d'été, mais je regardais ma fenêtre météo surtout. Là. C'était ça l'organisation, dans le fond, pas pogner de la neige, pas pogner de la slush, pas pogner de la grosse pluie ou des températures extrêmes. Là. Fait que finalement, je suis parti avec mes pneus à clous. J'ai fait. Mais on n'a pas eu de chaleur très, très, très élevée, donc. Ça a quand même bien été, mais ça coupe un peu dans l'autonomie, c'est sûr.
OK. Mais je retiens que tu n'avais pas de planification. Tu avais à quel superchargeur tu allais arrêter, puis tu n'as pas adapté avec soit un logiciel ou quelque chose ton itinéraire en fonction de tes prévisions de recharge.
Un peu de plug share pour les nuits. Mais okay. En gros, okay. C'était souvent l'application Tesla, parce que aussi c'est tout par commande vocale. Fait que souvent j'étais au volant puis je m'occupais et de conduire et de planifier. Fait que souvent c'était vocal ou tactile. Puis tu sais, il y a quand même beaucoup de bornes de niveau 2 qui sont quand même indiquées dans le logiciel Tesla aussi. Fait que j'en ai profité.
Toi, Christian, de ton côté, le voyage s'en vient, c'est pas encore fait. Est-ce que tu as prévu faire une planification?
Oui, j'ai regardé ça quand même déjà un peu. J'ai regardé juste la carte des superchargeurs de Tesla pour avoir une idée je peux me rendre assez facilement. Puis sinon, j'ai trouvé un bel outil sur le web qui s'appelle A Better Route Planner. Donc ça, tu peux donner ton point de départ, ton point d'arrivée, puis il fait une route à travers différents chargeurs, dont les chargeurs Tesla aussi. Fait que ça donne une bonne, très bonne planification. Puis tu peux changer des paramètres là, si tu veux y aller un peu dans le détail, si tu as plus de la température, si l'élévation ou le poids. Fait que il semble que ça donne des résultats très, très précis aussi pour donner une bonne idée de quand on doit recharger et combien de temps.
OK. Pour ceux qui sont intéressés par Better Route Planner, là, je mettrai l'hyperlien là, dans les références du podcast. Vous pourrez aller voir ça. C'est adapté à différents modèles de voitures. Hein. Ce n'est pas propre au Tesla.
Ouais,
on peut,
c'est ça, tu peux
l'utiliser avec d'autres modèles.
On peut choisir la voiture, puis après ça, ils utilisent ça pour faire le calcul.
Yes. Petite question. Quand on voyage en voiture électrique, forcément, il faut arrêter de faire le plein. C'est un plein qui est également forcément un peu plus long qu'un plein d'essence, on le sait, même si les superchargeurs Tesla sont ultra rapides. Là. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un voyage, un déplacement qui doit être planifié avec un peu plus de temps devant soi pour y arriver? Dans ton cas, Christian, c'est pas encore fait, mais j'imagine que tu y réfléchis. Mais Joël, toi, tu l'as fait. Est-ce que tu estimes que ton déplacement a été rallongé dû au fait que tu roulais en voiture électrique?
Pas vraiment. Même souvent, on était un peu bousculé. En fait, c'est que on arrête peut-être plus souvent, mais moins longtemps. Parce que souvent, je partais, dès que la puissance commençait à réduire, je partais pour aller au prochain. Fait que souvent, pendant les 150, à peu près 150 km entre chaque, là, c'est tout le temps, on arrête, qu'est-ce que tu as envie, on se consultait café, on va aux toilettes, essayer de pas trop coller longtemps. Puis souvent, ben, c'était, là, il faut partir, là, arrête de regarder les souvenirs, on va au prochain. Fait que souvent, c'est ça, c'est les dîners surtout. Là, fait que faut pas arrêter trop longtemps, même si c'était gratuit dans mon cas, là, mais admettons quelqu'un qui paye à minute, là, c'est rendu assez cher, 1$, je pense, de la minute, là, fait qu'on s'arrange pour pas rester trop longtemps.
Christian, de ton côté, est-ce que tu as regardé cet aspect-là? Tu peux peut-être nous répondre aussi au niveau du prix. Est-ce que tu as pris l'option, est-ce que tu as l'option du superchargeur limité, toi, ou tu payes à l'utilisation, je crois, avec ta Model 3?
Je devrais avoir quelques mois là, une promotion, quelques mois de recharge gratuite, mais après ça, je vais tomber sur je vais devoir payer. Mais les prix, je vais regarder ça un petit peu, ça dépend des différents endroits, mais souvent, ça coûte quand même un petit peu moins cher que l'essence. Mais pour ce qui est de la planification, le temps, c'est sûr que lorsque je fais des longs trajets avec les enfants, moi, je me suis rendu compte que lorsqu'on arrête, même si on veut arrêter rapidement, ça prend toujours 15-20 minutes avec les enfants, le temps qu'on sort, que tout le monde fait leurs petites choses. Fait que j'ai l'impression que ce ne sera pas trop un désagrément. Puis comme Joël dit, peut-être que finalement, je vais peut-être dire « OK, là, il faut qu'on parte parce que ça ne donne rien d'attendre plus longtemps ici, puis on partira puis on arrêtera plus loin un autre chargeur ».
J'ajouterais peut-être quelque chose dans ce point-là, mais c'est vraiment typique à ma région. Là. Ici, en Abitibi, dans la partie québécoise, là, si on veut, là, habituellement, oui, c'est plus long, c'est pénible. L'infrastructure qui manque beaucoup dans notre cas, là, fait que ça peut être des fois plusieurs heures de plus. Là. C'est un sacrifice souvent qu'on fait pour, mettons, faire Montréal, Abitibi-Montréal, là, souvent c'est un calvaire, là, surtout... J'ai déjà fait en hiver, là, la borne au domaine, là, c'est une borne de niveau 2 de 26 ampères. Là, juste garder l'auto chaude, ça, c'est à peine, ça suffit.
Ouf,
c'est ridicule. Ouais,
écoute, tu parles de garder l'auto chaude, ça m'amène à un point que je veux traiter avec vous autres, qui est le confort. Voyager en voiture électrique, le confort, j'imagine que vous avez déjà voyagé avant d'avoir une voiture électrique. Si vous comparez ça, c'est comparable, c'est plus confortable, c'est moins confortable. On en entend de toutes les sortes. Hein. Joël, toi, ton voyage, le confort avec ta voiture électrique, tu qualifierais ça de comment?
J'ai un problème de confort spécifique aux vieilles Tesla. Les premières Model S, là, ils ont les sièges. Puis moi, ça, je suis assez capricieux. Là. J'ai eu plusieurs Volvo dans ma vie. Fait que j'étais habitué d'avoir des bons sièges. Là. Les sièges de première génération des Model S là, sont épouvantables. Ils ont un bon support lombaire, mais la partie assise, si on veut, là, c'est plate. Fait que souvent, j'aimais pas ça, mais. Pour le reste, les vieilles Model S à propulsion, ils ont beaucoup, 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 beaucoup d'espace. Fait que pour les bagages, puis j'ai une très grande valise en avant, puis en arrière, puis tout. Là, fait que ça, pour l'espace, puis tout, là, ça, c'était vraiment bien. Mais pour la chaleur aussi, là, comme la nuit, même souvent, j'avais chaud. Là, il faisait 5 à 10 degrés dehors. Là, quand on dormait dans l'auto, je gardais comme le mode camping. C'était très bien, même souvent quasiment trop chaud. Là.
OK. Une petite question pour toi, Christian. Dans ta planification, ta savante planification tu nous parlais tantôt de Better Route Planner, puis tu regardais un peu où étaient les bornes sur ton déplacement. Là, dans ton cas, toi, tu vas faire ça, tu vas partir de ton domicile, donc de Gatineau, puis tu couches nulle part en chemin, c'est-à-dire que tu d'un rail, tu t'en vas là-bas, puis tu couches là-bas, tu n'as pas d'hôtel à planifier, c'est ça?
Non, c'est ça le plan de match, c'est d'y aller d'un coup, là. Ça serait quand même une grande journée, mais on est habitué à la famille, on a déjà fait des voyages en Floride, on sera en Floride en voiture en deux jours, donc on n'a pas de problème avec les grandes distances, c'est une des grosses journées, mais comme ça, on se rend d'un coup, puis on est arrivé.
Ouais. Okay. Mais à ta destination, l'autre bout, je ne sais pas si c'est en camping ou tu t'es loué quelque chose, est-ce que tu as... C'est un hôtel. Est-ce que tu vas te recharger à l'hôtel en question?
Je n'ai pas contacté encore, mais de ce que j'ai vu, il n'avait pas l'air d'avoir de prise de recharge. Fait que je pense que ce que je vais faire, c'est qu'il y a un supercharger de Tesla qui n'est pas trop loin, là, qui est en construction, qui devrait être prêt pour cet été. Puis je pense que je vais juste bien recharger la batterie juste un peu avant d'arriver à l'hôtel. Puis comme ça, rendu sur place, je ne devrais pas trop me déplacer. Puis si j'ai besoin vraiment de me recharger, je pourrais peut-être refaire un petit tour au supercharger, d'en avoir un à 15-20 minutes de l'hôtel. Puis je pense une bonne recharge avant de me rendre à l'hôtel. Puis après ça, ça sera peut-être juste pour le retour que je vais me recharger de nouveau.
OK. Toi, Joël, évidemment, c'est une longue ride. Il a fallu que tu couches en chemin. Tu couchais dans ton auto tout le temps ou tu as couché dans certains endroits?
6 jours sur 18. Puis la plupart du temps, on cherchait à se trouver un niveau 2. Mais souvent, justement, vu que c'était un peu improvisé, on finissait souvent dans un supercharger ou pas loin dans un truck stop. Souvent, c'était dans le milieu des États-Unis. puis il n'y a pas grand-chose. Fait que c'est souvent, c'est des truck stops. Fait que c'est le meilleur endroit. Puis on, des fois qu'on veut aller aux toilettes durant la nuit, aller dans une place bien éclairée, sécuritaire, là, surtout. Là. Mais c'est ça, j'aurais aimé souvent aller dans des terrains de camping, mais c'est ça, vu qu'on ne savait pas trop où on allait arriver exactement, les terrains de camping, ils nous reçoivent pas vraiment à 10 heures le soir. Là. Quand le soleil est couché, habituellement, on oublie ça pour les terrains de camping, parce que ça peut être pratique d'avoir une prise 14-50, un endroit où coucher, de l'eau, puis des fois, il y a des laveuses, des douches. Là. Quelqu'un qui veut organiser un peu plus, là, ça peut être une très, très bonne option. Quelqu'un qui voudra faire la même chose que moi. Là.
OK. J'ai deux petites questions pour terminer ça. Christian, tu planifies ton voyage. Quand on voyage, on se fait un petit budget. Là, on a une idée de vers quoi on s'en va. Est-ce que tu as évalué le coût du voyage avec ta Tesla 3 versus là, une voiture comparable ou la voiture que tu avais avant à essence au niveau de ce que ça va coûter pour les déplacements?
J'ai pas fait la comparaison, mais j'ai devant moi un peu le trajet avec The Bedroom Planner. Fait que lui, il calculait 24 $, je crois que c'est américain, pour la recharge, 24 à 30 $ pour la recharge avec les Supercharger pour l'aller. Donc peut-être un 50 $ pour aller-retour à travers les Supercharger de Tesla.
Donc, 900 km. Ouais, tu me parlais de 900 km.
Donc, fois 2, 1800. Donc, peut-être 50 $ pour 1800 km là, de voiture.
OK. Si on compare avec une voiture électrique, même... pas une voiture à essence, pardon, même avec une consommation raisonnable, t'es bien en delà des coûts pour te déplacer. Joël, on te posera pas la question. T'as les superchargers gratuits. Toi, ça t'a coûté zéro open bar, si je comprends bien.
45 $ à peu près en Ontario, en fait. Là. Puis là, moi, ça m'aurait pris... une voiture à essence, j'aurais pas fait ça, la première des choses. Mais ça m'aurait pris un entretien aussi. Fait que...
Ouais. Parce que là, tu nous parlais là, du déplacement que tu as fait. Tu nous as dit quoi? 12 800 km, ouais. C'est ça? En 18 jours. 12 800 km, là, je fais juste rappeler à nos auditeurs qui ont peut-être une voiture électrique qui l'auraient oublié, que sur plusieurs voitures, il y a un entretien qui est prévu au quoi? 8 000 ou 10 000 km, là. Donc, certainement, tu aurais
eu un entretien là-dedans. J'aurais eu un changement. J'ai eu un bris mécanique, mais... c'était quand même mineur, là, fait que ça n'a pas nuit tellement au voyage.
Dernière petite question, peut-être question un peu plus délicate, mais en même temps, je vous demande de vous mouiller un peu sur cet effet-là. Tous les deux, j'imagine, vous êtes conscients que vous êtes dans le haut de gamme de la voiture électrique. Il se démocratise maintenant de plus en plus de voitures électriques de d'autres compagnies, donc qui sont pas des Tesla, donc qui bénéficient pas du réseau Tesla, donc qui vont avoir besoin d'arrêter à des bornes de niveau 2 ou des bornes rapides, mais de réseaux standards américains ou canadiens, dépendant où on voyage. Pour des voyages comme vous le faites, avec une voiture qui n'est pas une voiture Tesla, est-ce que vous avez l'impression que c'est aussi facile? Puis les gens qui n'ont pas des batteries de 60 kWh et plus, qui ont des batteries de 30-40 kWh, est-ce que c'est envisageable de faire des voyages de la sorte? Christian, ton opinion sur le sujet?
Oui, mais je crois que ça va demander peut-être plus de planification, puis peut-être, comme tantôt on parlait de est-ce que ça l'impacte aussi, est-ce que ça doit prendre plus de temps, mais j'ai l'impression qu'avec une voiture peut-être une moins grande autonomie, avec un réseau de recharge rapide moins bien développé que Tesla, donc peut-être là, faut planifier plus, puis ça va prendre plus de temps, plus d'arrêt et une recharge peut-être un peu plus longue.
Joël, ton opinion?
Oui, je dirais pas mal la même chose, mais tu sais, il faut se rappeler aussi que... T'sais, il y a quelques années, non, qui a traversé le Canada avec un Tesla Roadster seulement niveau 2. Fait que, mais c'est pas le même genre. Là. C'est ça, c'est vraiment l'aventure. Là. Oui, c'est sûr que c'est plus compliqué avec une auto haute que Tesla. Il va falloir que les fabricants traditionnels se rendent compte de. Je pense qu'ils comprennent pas du tout ce qui se passe. Fait que, il va falloir qu'ils s'impliquent et qu'ils se prennent en main là, parce que ça fonctionne pas vraiment bien. Le modèle il est un peu tout croche.
Ouais, en fait, le la situation de Tesla est différente dans la mesure où c'est le seul manufacturier qui s'occupe à la fois des voitures et de l'infrastructure de recharge. Donc, ils peuvent le faire de façon cohérente avec le nombre de voitures qu'ils vendent, puis le nombre par région, puis etc. Alors que tous les autres manufacturiers de voitures dépendent de d'autres compagnies ou du bon vouloir d'associations, de regroupements, de réseaux privés ou publics qui vont mettre en marche des bornes, mais c'est complètement déconnecté de la vente des véhicules. Donc, les manufacturiers ne ressentent aucune responsabilité face à l'infrastructure de recharge et vice-versa. Donc, forcément, c'est moins bien arrimé.
Le logiciel de l'auto fonctionne avec le réseau, puis tout ça est tout intégré, puis ça se parle bien, puis tout fonctionne bien. Fait que de ce côté-là, c'est la grosse faiblesse. Ils ont bien beau sortir à 1000 km d'autonomie, c'est l'humain la limite, là. Fait que c'est le réseau qui est vraiment, c'est ça qui est le nerf de la guerre, là. Oubliez les grosses batteries, là. Maintenant, il faut arrêter de manger, il faut aller aux toilettes, c'est le réseau qui fait la grosse différence.
Oui, tout à fait. Je partage entièrement cette opinion-là. Ben écoutez, Christian Pelletier, Joël Côté, merci beaucoup de votre présence aujourd'hui, messieurs.
Ça fait bien plaisir.
Merci, Martin.
Merci, au revoir. Toujours sur le même sujet des grands voyages, il y a quelques semaines, lors de son passage dans nos studios, j'en ai profité pour interroger Ghislain Poisson, directeur régional de l'AVEC pour la Montérégie, au sujet d'un voyage qu'il avait fait dernièrement. Donc, on écoute ce que ça a donné. Alors, je suis maintenant en compagnie de Ghislain Poisson de Saint-Hilaire. Ghislain, qui est directeur régional de l'AVEC pour la région de la Montérégie. Bonjour, Ghislain.
Bonjour, Martin.
Toi aussi, tu as fait un voyage, mais toi, dans ton cas, c'est aux États-Unis, mais c'est pas avec une Tesla, c'est avec une Chevrolet Bolt, c'est ça?
Exactement, c'est notre Chevrolet Bolt 2017. On a fait un voyage en Virginie du 5 au 12 avril dernier. On a pu expérimenter un peu cette expérience-là, de faire un road trip électrique, si on veut.
Oui, oui. OK, donc tu es parti de chez vous à Saint-Hilaire, puis tu t'es rendu jusqu'en Virginie, puis tu as fait ça sur combien de jours, combien de temps?
Bien, disons que nous, l'idée, c'était aussi d'en profiter en se rendant. Ce qu'on voulait au début avril, c'était trouver un peu la chaleur. Fait que nous autres, il faisait froid. Fait que là, on s'est dit, bon, on va aller dans le sud. Il y avait beaucoup les voyages, le prix des voyages dans le sud était assez dispendieux. Tout le monde voulait s'en aller dans le sud. Fait qu'on s'est dit, bon, on va prendre l'auto, puis on va s'en aller dans le sud, puis on va visiter différentes choses qu'on a le goût de voir en s'en allant. Fait qu'on n'était pas non plus sur un sprint là, à tout prix. Fait qu'on a pris deux jours, en fait, pour se rendre, un jour et demi, pour se rendre au Maryland.
Okay.
D'un premier temps. Puis on a passé deux nuits au Maryland. Et puis ensuite, on est déménagé pour aller en Virginie avant de revenir, en fin de compte.
OK. Et là, dans ton cas, toi, Justin, tu voulais faire du vélo. Donc, tu avais un rack à vélo installé à l'arrière du véhicule. Et tu traînais des vélos.
Oui, c'est ça. Fait qu'au fond, je me demandais est-ce que ça allait entamer mon autonomie. Fait que j'essayais d'être vigilant un peu parce que c'était tout récent, l'installation de la tâche remorque puis l'achat du rack à vélo qui s'installait derrière le véhicule, finalement, pour traîner nos deux vélos. Mais j'avais quand même lu là-dessus à savoir si ça faisait une différence importante sur l'autonomie. Puis moi, je figure ça peut-être change 3-5% d'autonomie. Donc, c'est assez négligeable. Puis ça a valu la peine là pour notre voyage de les traîner.
Ouais, pour le plaisir que ça apporte d'avoir les vélos avec toi. Puis ouais. Toi, Ghislain, tu es un amateur de statistiques. Donc, tu as tenu un registre précis de tes déplacements, donc tes distances, les températures qu'il faisait à l'extérieur. L'électricité que tu as consommée, les recharges que tu as faites, le coût que ça a coûté, etc. Donc, parle-nous un peu de ces statistiques-là.
Bien, effectivement, je voulais avoir une idée précise, en fin du compte, là, du nombre de kilomètres que je faisais, l'efficacité énergétique, la consommation électrique aussi, le coût des recharges, puis de voir un peu comment ça me coûte. Est-ce que ça m'aurait coûté moins cher de faire le même trajet avec un véhicule à essence, par exemple, là? Fait que c'est un peu tout ça que je voulais voir en même temps aussi, puis de noter, bon, les différents réseaux de recharge aussi, ouais, sont pas tous les mêmes.
Non, et ils sont pas mal plus chers aux États-Unis qu'au Québec,
ouais,
on s'en rend compte assez vite.
C'est ça. Quand on se compare, on se console, même si on trouve des fois que les bornes rapides ici peuvent être coûteuses, c'est pas du tout la même situation aux États-Unis, c'est beaucoup plus cher. Fait que je pense qu'on a, il faut apprécier la qualité, la fiabilité de notre réseau, puis aussi son coût qui est abordable, moi je pense, là, quand on qu'on compare par rapport aux États-Unis.
OK. Ben, trace-nous donc un peu les grandes lignes de ces statistiques-là. Qu'est-ce que tu as remarqué? Quels sont les chiffres intéressants que tu peux nous relater là-dessus?
Oui, ben c'est sûr qu'il y a aussi la, comment dire, la répartition des bornes électriques qui est importante, surtout les bornes rapides. Moi, je dirais qu'il y a une petite difficulté pour passer, par exemple, les Adirondacks par Plattsburgh. Il y a un petit trou, là. Hein, il manque une borne rapide, mettons, à Plattsburgh. Okay, fait que, ouais. Nous, c'est la route qu'on a quand même pris, mais ça a été un petit peu difficile se rendre à Lake George. Puis aussi, mais ça s'est amélioré parce que nous, il y a 2 ans, on a fait quand même un voyage à Boston avec la Bolt aussi, puis il y avait moins de bornes, moins de choix quand même. Fait qu'il y a quand même une progression, je pense, du côté américain au niveau du nombre de bornes rapides, parce que ça, c'est important quand on veut faire beaucoup de distance. Mm-hmm. Puis si on regarde, au fond, moi, c'était vraiment facile. À partir du moment qu'on a traversé les Adirondacks, puis qu'on avait aussi... au fond, notre application qui nous guidait là, de borne en borne, il y avait toujours une borne, au fond, à toutes les 70-80 km, une borne rapide. On s'arrêtait pour un lunch 30 à 40 minutes, puis on continuait un autre 200-250 km. Fait que, tu sais, ça va assez bien aussi pour dire, ben, de toute façon, il faut s'arrêter, il faut se décourdir les jambes, il faut se rafraîchir un peu. Fait que ça a été assez facile de ce côté-là. Et puis, au fond, c'est ça. Pour y aller, comme je disais, là, on a pris à peu près un jour et demi pour se rendre, parce qu'on est parti tard au Maryland. La deuxième journée, on a fait plus de millage. On a fait 676 km dans une journée, en faisant 3-4 arrêts dans la journée. Puis ça a très bien été comme ça. Là, au fond, là, ça se fait assez bien. C'est sûr que ça reste un peu... une aventure, là, parce que des fois, bon, on est tombé sur une borne qui était défectueuse et puis que c'était pas prévu. Et puis, tu sais, il faut aussi, je trouve que c'est important quand on fait un road trip aux États-Unis d'avoir justement des données, un abonnement avec données cellulaires pour savoir où sont les bornes parce que au fond, notre application, ça marche plus en traversant la frontière. Bon, on était un peu mal pris,
ouais,
là,
ouais, ouais.
Fait que ça, c'est un conseil important aussi, là.
Quel réseau tu as utilisé là-bas? On connaît bien les réseaux ici, mais aux États-Unis, on sait qu'il y a ChargePoint, EVgo, il y en a plusieurs. Lesquels tu as utilisé surtout?
C'est ça, on a quand même utilisé le réseau, surtout EVgo, GreenLots, puis ChargePoint. Fait qu'on était, on a été à même un peu de constater les différences. Là. Le réseau ChargePoint a beaucoup de bornes 240 volts, mais a aussi des bornes rapides, là. Alors, puis le réseau EVgo, par contre, lui, est un peu plus dispendieux. Faut installer l'application pour pouvoir amorcer les bornes. Les recharges, c'est beaucoup plus efficace que d'appeler avec une carte de crédit. On installe l'application, on démarre la recharge, ça se fait très bien. Puis on n'a pas besoin de mettre un montant en avance, au fond. Ils vont tout de suite facturer notre carte de crédit.
Okay.
Fait que ça, c'est quand même bien. Le réseau GreenLots, ce que j'ai aimé, c'est que c'est un coût de 8 $ par recharge. Fait qu'au fond, que tu restes 20 minutes ou 50 minutes, c'est 8 $ une recharge rapide.
Okay.
Fait que, puis moi, celle que j'ai été, ils ont été pas mal fiables. Les bornes ont bien fonctionné. Puis c'est un réseau qui a été acheté par Shell. Fait que j'imagine qu'ils vont vouloir, tu sais, avoir un réseau fiable.
Ouais, ouais.
Et ça semble être récent, l'achat de ce réseau-là par Shell. J'ai eu un problème où une recharge, ça l'a arrêté, puis ça a reparti. Il a fallu que je remette partir une autre charge, puis il a fallu que je repaye un autre 8 $ Mais en écrivant au service à la clientèle, ils m'ont remboursé. Fait que, tu sais, ça, j'ai été satisfait quand même
du
service
bien,
ouais, à la clientèle.
Est-ce que tu as fait donc, tu as calculé tes coûts de toutes tes recharges. Donc, je sais que tu aimes les statistiques. Donc, tu as regardé le nombre de kilowattheures par recharge que tu as utilisé, puis tout ça. Donc, à la fin du voyage, tu as une idée de ce que ça t'a coûté en termes de bornes. Est-ce qu'il y en avait une couple de gratuites dans l'eau ou tu as juste eu des bornes payantes?
C'est ça. Moi, c'est un mélange, au fond, de bornes gratuites, surtout pour le coucher. On se trouve un hôtel. Faut dire que c'est il y a peu d'hôtels qui ont des bornes sur place, en fin du compte. Mais souvent, c'est que dans un rayon de 1-2 km, il y a des bornes souvent gratuites qui sont disponibles. Puis moi, ça allait bien avec mon vélo que je pouvais prendre, laisser ma voiture même à 2 km, puis revenir à la chambre à coucher, même à 2 km, ça se faisait très bien. Fait que c'est un petit avantage d'avoir ces vélos avec soi. Mais effectivement, le soir, c'était facile de trouver une borne
qui était
à coût raisonnable ou gratuite, en fin de compte. Fait que quand je fais un peu la moyenne de mes coûts, ben j'arrive à un voyage qui est abordable, là, un petit peu plus abordable qu'un voyage électrique à essence, si je veux, là, okay. si on veut. Parce qu'au fond, le coût de total de mes recharges, figure, ça a été 100 $ et 88 sous. En équivalent canadien, je pense ça équivaut à 142 $ pour parcourir 2500 km. Puis j'ai simulé que même en payant de l'essence au prix américain, ça m'aurait quand même coûté 180 $. Fait que c'est sûr que c'est comme une économie, mais il y a un petit peu plus de compromis, d'agencement pour trouver les bornes et tout ça. Mais c'est une expérience aussi qui est quand même intéressante. Le fait de voyager sans faire de pollution, puis c'est aussi une aventure un peu plus. On s'arrête dans des coins qu'on explore davantage. Fait que, somme toute, l'expérience a été positive.
Mmh. En terminant, Ghislain, on sait que les bornes de Tesla sont super bien situées. Là, ils se trouvent à très bien tapisser le territoire américain. Donc, c'est un peu plus facile en Tesla. Puis les Tesla ont beaucoup d'autonomie aussi. Toi, tu as une Chevrolet Bolt, une voiture qui a une bonne autonomie, mais qui n'est pas Tesla. Donc, tu dois utiliser les bornes régulières des différents réseaux. Tu qualifierais ton expérience de facile, moyennement facile, difficile? Quelqu'un qui ne l'a jamais fait, puis qui songe, là, qui a une Bolt, puis qui dit, moi, je veux y aller en Virginie cet été, là, ça te demande-tu une grosse préparation psychologique et d'itinéraire, ou c'est relativement facile?
Ben moi, je pense que c'est pas très difficile, là, c'est assez facile. C'est sûr, comme je dis, il faut s'assurer de passer la frontière puis d'avoir accès à un service Internet là, qui continue, parce qu'on veut trouver facilement et rapidement les bornes là, dans la ville qu'on arrive. Nous, c'est sûr qu'on n'était pas hyper planifiés. Là. Des fois, on décidait l'endroit qu'on couchait le matin même. Là. On y allait comme selon la température aussi. Va-tu faire beau à tel endroit? Alors, on se déplace, etc. Il y a des gens qui tiennent absolument à voyager de façon hyper planifiée. Nous, on était un petit peu plus là à l'aventure, si on veut, puis c'est comme ça qu'on aime voyager, puis ça s'est quand même très bien fait.
Donc, je conclue que si on met un peu d'eau dans notre vin, on se donne une petite marge d'erreur, un petit peu de flexibilité, ça se fait bien.
Oui, c'est ça. Comme je te dis, moi, ce que je trouvais efficace de faire, c'est je pars le matin avec une batterie pleine, je me fixais une destination où ce que j'avais encore un 20-25% de batterie, je reprenais une charge rapide, puis je faisais un autre 225 km, je refaisais un petit arrêt, puis une petite demi-heure, puis je continuais. La journée, j'ai fait plus de kilométrage, c'est en revenant, j'ai fait 838 km dans une seule journée. Puis on n'était pas la langue à terre non plus à la fin de la journée. On avait quand même pris le temps de faire des arrêts corrects, là, si on veut. Fait que c'est quand même intéressant comme expérience.
Très intéressant, mon cher Ghislain. C'est la preuve que ça se fait et qu'on n'est pas obligé d'avoir une Tesla pour le faire. Je te remercie beaucoup pour ton partage avec nous autres aujourd'hui.
Ça me fait plaisir, Martin. Merci.
Vous êtes intéressé à faire le saut pour une voiture électrique? Vous considérez choisir une voiture d'occasion? Rendez-vous chez JN Auto. Avec plus de 35 modèles presque neufs en stock, c'est définitivement le chef de file lorsque vient le temps de vous procurer un véhicule électrique. En plus des prix déjà très compétitifs, JN Auto offre un rabais exclusif aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. Une réduction supplémentaire de 299 $ plus taxes sur le prix affiché au financement d'un véhicule entièrement électrique ou hybride rechargeable. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com. Téléphonez-nous au 1-888-821-3084 ou rendez-vous directement en succursale au 317 route 116 à Richemont, en Estrie. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 35 ans.
Roulez vert avec Stéphane Levert.
Bonjour, mon nom est Stéphane Levert et bienvenue à ma sixième chronique Roulez vert. Avant de quitter pour la relâche des vacances, je voulais vous préparer une petite surprise. En fait, là, je voulais faire un petit peu différent de ce que j'ai fait jusqu'à date dans mes chroniques, de vous partager une expérience que j'ai vécue. Pour ma dernière chronique avant la relâche, je voulais vous préparer un topo que j'ai fait, en fait une entrevue que j'ai faite avec quelqu'un qui travaille dans une entreprise qui œuvre dans les véhicules électriques. Pas tout à fait les mêmes véhicules que vous et moi on conduit à tous les jours, mais c'était quelque chose que je voulais vous faire qui était super intéressant et en fait qui l'est toujours, mais l'entrevue que j'ai enregistrée avec cette personne-là en fait a généré tellement de bon contenu que Martin et moi, on a tous les deux décidé que cette entrevue-là devait être présentée intégralement dans le podcast. Donc ce qu'on a décidé, c'est que au retour du congé là, qu'on s'apprête à faire au niveau du podcast, on va vous présenter cette entrevue-là intégralement. Donc, restez à l'affût, là, probablement que vous allez voir, là, si vous consultez la page Facebook de Silence on roule, au retour, un petit avant-goût là, de qu'est-ce qu'on vous a préparé. Ça va être super intéressant, je suis pas mal certain. Donc, j'ai dû me trouver un plan B, là, dans le fond, là, je voulais pas vous laisser en plan là, avant les vacances. Donc, ce que j'ai décidé de faire pour cette chronique-ci, c'est de parler de quelque chose qui est arrivé là, récemment. Là, on a appris le 9 juillet dernier là, que enfin, là, beaucoup, là, c'était quelque chose que beaucoup d'électromobilistes attendaient. Là. En fait, ça l'a quasiment fait exploser Internet là, le 9 juillet. Je parle bien sûr de la compatibilité des Model 3 avec l'adaptateur de CHAdeMO. Donc, ce que ça fait, grosso modo, pour ceux qui suivent un petit peu moins l'actualité au niveau de Tesla, c'est que depuis sa sortie, là, évidemment, là, on a vu les Tesla Model 3 apparaître sur nos routes là, du Québec il y a un petit peu plus qu'un an. Là, donc, les premières sont arrivées, il y a eu des premières livraisons. Et c'est arrivé, là, évidemment, les différentes déclinaisons, les différentes versions sont arrivées au fil du temps. Donc, on en voit vraiment de plus en plus là, sur nos routes. Là, c'est vraiment en train de devenir le véhicule que je croise sur la route le plus souvent. Donc, une des particularités de ce modèle-là versus les autres modèles de Tesla qu'il fabriquait jusqu'à maintenant, c'était que les autres modèles comme la Tesla Model S et la Tesla Model X, là, évidemment, toutes les Tesla ont accès au réseau Supercharger, là, évidemment, mais les autres modèles comme la S et la X, lorsque les gens devaient se déplacer dans des endroits qu'ils n'avaient pas, donc des régions un petit peu plus éloignées des grands centres, quand je pense à l'Abitibi, la Côte-Nord, la Gaspésie, ben, toutes ces régions-là, les personnes qui devaient se déplacer dans ces endroits-là, évidemment, il n'y a pas de réseau de supercharger qui sont présents dans ces régions-là. Donc, ce que les propriétaires de Tesla avaient comme option, c'est d'avoir un adaptateur CHAdeMO. Donc, évidemment, l'adaptateur CHAdeMO permet de se brancher sur les BRCC du circuit électrique. Donc, pour en revenir à la Model 3, donc jusqu'à la semaine dernière, avec la publication de cette nouvelle-là, Tesla donc ont annoncé que l'adaptateur CHAdeMO qui était utilisé sur les Tesla Model X et les Model S était maintenant disponible là, suite à une mise à jour là, qui va être livrée d'ici les prochains jours, les prochaines semaines, là, dans tous les Model 3 là, qui ont été livrés. Donc, une fois cette mise à jour faite-là, donc l'adaptateur CHAdeMO de Tesla va maintenant fonctionner sur les Model 3. Donc, pourquoi ça a été si long là, avant que Tesla puisse rendre compatible justement cet adaptateur-là? Évidemment, là, il y a beaucoup de spéculations. Là, il y a beaucoup d'histoires là, disant que bon, Tesla n'était pas pressé parce que, évidemment, pour ceux qui l'ignorent, là, la différence là, au niveau des superchargers, c'est que les Model 3, les usagers doivent payer la session. Là, donc, un petit peu un modèle là, à la circuit électrique, c'est-à-dire que selon le temps de recharge, là, évidemment, il y a un frais là, attaché à la recharge. Ce qui n'était pas nécessairement le cas avec les Model S et les Model X qui, pour la plupart, là, lors des premières années, là, ça l'a changé récemment, mais la majorité des Tesla Model S et Model X qu'on voit sur les routes actuellement, eux, lors de l'achat de leur véhicule, Tesla offrait ce qu'ils appelaient le supercharger gratuit à vie. Donc, ce que ça indique, c'est que ces personnes-là ont accès au réseau de supercharger et leurs recharges sont grosso modo gratuites là, pour la durée de vie du véhicule. Donc, évidemment que Tesla n'avait pas nécessairement de contraintes à laisser ces gens-là aller sur d'autres réseaux payants. Donc, évidemment, à ce moment-là, Tesla, ils font une espèce d'économie à ce moment-là au niveau de leur électricité qu'ils doivent payer que dans leur Spot Charger et qu'ils ne devaient pas collecter le client. Avec la Model 3, c'est différent parce que, évidemment, le client doit payer sa recharge. Donc là, si l'adaptateur était inclus et compatible au jour 1, donc ça laissait un petit peu place à la spéculation, à savoir que les gens pourraient aller vers d'autres réseaux au lieu d'utiliser les superchargers Tesla. Un autre argument que beaucoup de gens qui défendaient, là, entre guillemets, là, Tesla, pour ne pas rendre à tout le moins l'adaptateur existant compatible, c'était que, bon, la Model 3, évidemment, toute la gestion de la batterie, là, c'est toute une nouvelle gestion, c'est une nouvelle génération de batterie qui n'est pas la même que sur les modèles S et les modèles X existants. Donc, beaucoup de gens défendaient Tesla en disant que, probablement, que tout ce qui est la batterie, là, tout le système de batterie de recharge, le BMS qu'on appelle en anglais, serait complètement différent. Donc, la possibilité qu'un adaptateur existant déjà de CHAdeMO puisse être compatible était probablement ou peut-être, là, hypothétiquement, non compatible. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cas. Donc, évidemment, là, cette supposition-là, on peut la mettre de côté parce qu'aujourd'hui, les adaptateurs CHAdeMO déjà existants d'ancienne génération, entre guillemets, vont être complètement compatibles avec la Model 3. Donc, ça, on met ça de côté. Un autre point, par contre, qui pouvait nous faire croire que l'adaptateur qui s'en venait pour la Model 3 n'était pas le CHAdeMO, mais plutôt le CCS, est le fait qu'en Europe, actuellement, toutes les Model 3 qui sont livrées n'offrent pas le connecteur Tesla là, qu'on connaît bien ici là, et que toutes les Tesla Model S et Model X qui étaient aussi livrés en Europe avaient. Tesla a plutôt opté avec le connecteur CCS de combo de type 2 qui est le standard là-bas là, au niveau de la recharge rapide. Là. En fait, là, il y a presque tous les modèles ont ce connecteur-là. Donc Tesla s'est uniformisé. Là, ça a été un petit peu une loi là, qui a été voté au niveau de l'Union européenne pour forcer Tesla justement à livrer des véhicules avec un connecteur qui est standard là-bas. Donc, évidemment, on aurait pu être porté à croire que la Model 3 est plus compatible, entre guillemets, CCS que CHAdeMO nativement. Mais Tesla, il était vraiment avec le connecteur CHAdeMO que la majorité des gens, de toute façon, qui ont des Model S et des Model X en Amérique, ont déjà. Donc, s'il y a un propriétaire qui a une combinaison de deux modèles Tesla, c'est beaucoup plus simple à ce moment-là pour lui d'avoir un seul et même adaptateur qui fonctionne pour tous ses modèles. Et dernier point là, qu'il ne faut surtout pas négliger, là, selon moi, là, c'est qu'évidemment, nous, au Québec, là, on est habitués avec le circuit électrique et la majorité des autres réseaux aussi, c'est d'arriver à une BRCC, de tout le temps avoir les deux connecteurs de disponibles. Donc, évidemment, le CCS combo ou CHAdeMO, selon le modèle évidemment qu'on conduit, on a toujours l'option des deux connecteurs. Donc, c'est pour nous, que ce soit un CHAdeMO ou un CCS combo, en tout cas au Québec, lorsqu'on va se promener dans les régions, lorsque les gens qui ont des modèles 3 qui vont se promener dans les régions, qui ont l'adaptateur, que ça aurait été un ou l'autre, selon moi, ça ne fait pas vraiment de différence au Québec. Mais il faut vraiment aller se promener là, ou suivre l'actualité américaine pour savoir qu'aux États-Unis, actuellement, les réseaux là, qui sont en train de se développer, le connecteur CHAdeMO, là, c'est extrêmement marginal. Donc, si vous suivez un petit peu l'actualité, vous savez probablement qu'il y a un nouveau réseau qui s'appelle Electrify America qui est en train de se développer, là, évidemment, là, qui veulent devenir comme l'alternative ou le gros réseau national américain. Donc, eux, les déploiements qu'ils font, la proportion de connecteurs CCS combo versus CHAdeMO, c'est quasiment du 10 pour 1. Donc, pour toutes les stations là, qui sont en train de faire, là, si vous avez vu des photos, là, les déploiements qu'ils font, là, ça ressemble vraiment comme des superchargers, c'est-à-dire qu'il y a des sites de 10 bornes et même plus. Là, donc, pour la majorité des sites, la proportion des connecteurs CCS combo est beaucoup, beaucoup, beaucoup supérieure. Donc, en donnant la possibilité d'utiliser l'adaptateur CHAdeMO à tous les usagers de la Model 3 aux États-Unis et au Canada, donc Tesla livre la promesse qu'il avait faite, qui était de ultimement l'offrir. mais aussi ils gardent la petite, l'avantage au niveau de la disponibilité, surtout aux États-Unis, de dire que les superchargers sont beaucoup, beaucoup plus déployés que des BACC de type CHAdeMO aux États-Unis à tout le moins. Donc ça, il faut quand même garder en tête que Tesla, le marché américain, est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large que le Québec ou le Canada en grand, au grand complet, évidemment. Donc, à ce niveau-là, il faut, selon moi, pas oublier, là, pas négliger ce point-là là, qui a probablement eu aussi son importance dans la décision de Tesla d'offrir l'adaptateur CHAdeMO et non le CCS. Ce que j'ai vu aussi depuis l'annonce de cette nouvelle-là, c'est beaucoup de conducteurs ou d'utilisateurs de BRCC actuels qui s'inquiètent un petit peu au niveau de savoir là, si ça va engorger ou monopoliser là, l'utilisation des BRCC par, évidemment, là, comme je l'ai dit tantôt, là, les Model 3 sont très nombreuses depuis un an sur nos routes. Donc, est-ce que ça va causer des problèmes là, au niveau de l'utilisation? Selon moi, non. Là. Selon moi, c'est encore là une bonne nouvelle là, pour l'électromobilité en général. Là. Tous ceux qui étaient en attente, là, qui avaient en vue là, le Model 3, là, puis attendaient seulement ça, là, cette incertitude-là. Évidemment, pour les gens qui ont soit de la famille ou qui ont du travail, là, pour peu importe, qui ont des déplacements à faire dans des régions qui n'étaient pas couvertes par les superchargers, ça va peut-être être justement le petit go là, qui manquait là, pour pouvoir encourager ces gens-là. Donc, pour moi, évidemment, là, juste pour ça, c'est une bonne nouvelle. Au niveau de l'engorgement, ce qu'il faut savoir, là, c'est que l'adaptateur, à la base, là, il coûte 600$. Donc, c'est pas en ayant la voiture que nécessairement tous les usagers ou tous les conducteurs de Model 3 vont nécessairement s'acheter cet adaptateur-là. Juste par rapport au prix qu'il coûte et par rapport à la différence au niveau de la puissance. Parce qu'il faut savoir, c'est que la Model 3, dépendant de la version, là, ça peut aller de jusqu'à 100 ou 150, même avec les nouveaux superchargers, il va avoir au-dessus de 250 kW là, nominalement, là, au niveau de, dépendant de, évidemment du pourcentage de recharge actuel de la batterie, là, mais ce qu'il faut savoir, là, c'est que les superchargers ils sont beaucoup, beaucoup plus puissants là, au niveau que de la génération actuelle des BRCC qui sont déployés actuellement. Donc, un usager qui a le choix sur son itinéraire d'arrêter soit un supercharger ou des BRCC, juste par rapport à la puissance et par rapport au nombre de stations qui sont disponibles, c'est un no-brainer. Là. La personne va aller nécessairement dans un supercharger. C'est vraiment pour un dépanneur là, que j'appelle, moi, là, c'est pour les gens qui ont vraiment à s'arrêter à des BRCC, qui n'ont pas l'alternative, qui vont le faire. Donc, demain matin, l'adaptateur est compatible. Est-ce que ça va engorger les BRCC? Selon moi, non. Et si l'utilisation que les propriétaires de Model 3 vont faire de BRCC incite les propriétaires de différents réseaux là, à bonifier certains sites en voyant que, par exemple, l'utilisation est augmentée, bien, selon moi, tout le monde va gagner en bénéficier là, de cette utilisation-là et du plus grand déploiement qui va être fait par rapport à l'utilisation qui va être faite. Selon moi, tout le monde est gagné ici. Là. Précédemment, je vous ai parlé du coût d'acquisition. Donc, juste pour finir ma chronique, là, pour ceux qui ne voudraient pas mettre ce 600$-là pour l'achat de cet adaptateur-là et qui souhaitent justement se rendre soit en région, que ce soit juste une fois ou deux fois par année, tu sais, je pense que pour ces utilisateurs très, très, très sporadiques-là, mettre 600$, je pense que ça ne vaut pas la peine. Donc, pour ceux qui voudraient justement en bénéficier et qui ne veulent pas nécessairement mettre cet argent-là dans cet investissement-là. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le Club Tesla Québec, si vous êtes membre ou si vous le devenez, sachez que vous pouvez emprunter un adaptateur. Donc, le Club Tesla Québec offre quelques adaptateurs. Là, je pense que justement, vu que la Model 3 est maintenant compatible, je pense qu'ils vont en avoir plus de disponibles. Donc, vous pouvez, soit si vous êtes membre ou si vous le devenez, sachez que vous pouvez emprunter des adaptateurs CHAdeMO. Là, donc, ça peut être super pratique pour ceux qui n'en ont pas souvent besoin, mais qui pourraient justement en avoir besoin, soit pour les vacances, soit pour aller voir la famille, soit pour le travail. Donc, sachez-le. Si jamais vous n'êtes pas membre, vous voulez voir le devenir, il y a aussi sur Facebook, là, j'ai j'ai vu plein de membres de pages là, qui s'affichent maintenant et qui vont offrir la location. Donc ça aussi, ça peut être une bonne alternative. Donc si jamais là, il y a quelqu'un proche de chez vous là, qui offre cette location-là, informez-vous là, à savoir là, dans les différentes pages, là, forums là, de l'AVEC. Ça peut être aussi un bon endroit là, pour faire ces demandes-là. Là, et je suis certain là, qu'il y aura d'autres membres là, qui vont pouvoir vous proposer ça. Et finalement, une dernière alternative qui serait peut-être intéressante de mettre en place, ce serait de mettre à la disposition des gens, un peu comme en Europe, il y a certains réseaux de recharge qu'on voit ça. Il y a un adaptateur sur le site même là, que les gens peuvent utiliser, là, qui est vraiment sécurisé avec un câble. Donc, évidemment, on ne peut pas l'emporter avec nous. Mais on peut l'utiliser pendant la recharge et le laisser là ensuite pour que d'autres personnes, après ça, puissent l'utiliser. Donc, c'est vraiment une alternative qui est vraiment bonne parce que, évidemment, ça évite que tout le monde aille s'en acheter, mais tout le monde a accès après ça. Au site là, donc pour tout casser les sites de superstations, donc ça serait évidemment là, c'est génial d'avoir ça de disponible, ou tous les sites vraiment plus spécifiques ou plus stratégiques par rapport aux régions là, où est-ce qu'il n'y a pas de supercharger de disponible. Donc ça serait intéressant d'avoir ça sur nos bornes. Donc ceci conclut ma dernière chronique avant la relâche. Donc c'était Stéphane Levert qui vous souhaite bonne route et bonnes vacances.
Bonjour, ici Marie-Hélène,
Émile
et Marc-Antoine.
Ce message est pour vous informer que Martin et le podcast seront absents durant quelques semaines.
C'est le temps des vacances et ils s'accordent une pause en famille après avoir mis en ligne l'épisode 61 le 19 juillet.
Mon papa vous reviendra avec plein de choses à vous dire le 30 août prochain. Bonnes vacances!
Réflexion branchée de Claude Gauthier.
Alors bonjour tout le monde et re-bienvenue à la section des pensées pas trop songées de Claude Gauthier. Cette semaine, de quoi je veux vous parler? Je veux vous parler, premièrement, j'ai un nouvel ami sur Facebook qui s'appelle M. Adrien Pouliot. Pour ceux qui ne connaîtraient pas M. Adrien Pouliot, c'est le chef du Parti conservateur provincial, donc pour la province de Québec. Et vous savez, M. Pouliot est tout qu'un phénomène. C'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. Il reprend même la même chose que Maxime Bernier a émis durant, pas la campagne, là, parce qu'ils l'ont pas encore commencé, mais il est allé dire que le CO2, c'était pas de la pollution, parce que c'est ce qu'on émettait quand on parlait, quand on respirait, c'était aussi de quoi se nourrissaient les plantes. Je me souviens que Jean-René Dufort a essayé de lui expliquer que c'était correct le CO2, mais que, comme on dit souvent, trop c'est comme passé. Et malgré toutes les explications de M. Dufort, qui a fait même une expérience, M. Bernier n'a pas compris, et moi, bon, ben les choses que j'ai dites sur la page Facebook de M. Pouliot n'ont pas été mieux comprises non plus, tellement que je donnais des données et je leur disais que c'est sûr que la pollution atmosphérique, le gros problème que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on la voit pas, on la ressent pas. Un peu comme les changements climatiques, donc les gens croient plus ou moins à ça pour certains, parce que ils ne voient pas encore les effets de ça. Comment ça peut changer les choses? Il y a des gens qui croient que, bon, la température est changée, mais qu'on n'a pas l'humain beaucoup de choses à voir avec ça. Donc, M. Pouliot, malgré toutes les données que j'ai pu lui dire, n'importe quoi, me ramenait toujours autre chose, et souvent, il change le débat. Il me dit que quand bien même toutes les voitures électriques dans le monde seraient électriques, toutes les voitures seraient électriques, que ça changerait bien peu de choses pour la consommation de pétrole dans le monde. Et là, il a commencé à me sortir des chiffres. Puis moi, j'avais beau lui dire que c'était pas ça le débat, que c'était beaucoup plus par rapport à la pollution. Il n'y avait rien à faire. Puis à un moment donné, un de ses acolytes me dit que si je n'étais pas capable de parler avec le monde, d'arrêter de les insulter puis d'aller voir ailleurs, alors que j'avais insulté personne. Les seules insultes que j'avais émises, c'était des chiffres contradictoires avec eux. Ça m'amène aussi avec mon deuxième sujet. Justement, comme je parlais, la pollution atmosphérique, c'est quelque chose qu'on voit pas. J'ai vu un reportage à la semaine verte, je pense ça fait voilà, 2 ou 3 semaines, d'un scientifique européen qui disait que justement, à date, la pollution atmosphérique, bien, c'est que l'air est comme une poubelle à ciel ouvert, puis qu'on peut polluer tant qu'on veut, parce qu'on la voit pas, on la ressent pas. Et en plus, bien, il n'y a aucun incitatif pour dire de ne plus s'en servir. On a quelques pays qui ont émis des politiques pour pouvoir faire payer les industries qui étaient les plus polluantes. Mais encore là, c'est pas à la grandeur de la planète. Et on le voit ici au Canada, alors que le gouvernement de Justin Trudeau a fait une taxe carbone. Et que dès qu'elle a été mise en branle, elle a été attaquée par différentes provinces. Malgré que je comprends qu'on est un petit peu, je dirais pas peureux, mais on a peur un peu quand même des pouvoirs qu'on peut donner au Canada, parce que faut penser qu'admettons qu'on donnerait les pleins pouvoirs au gouvernement fédéral de gérer ces choses-là. Ben, ça veut pas dire que, exemple, au mois d'octobre, un gouvernement conservateur qui se fait élire décidera pas tout simplement de renverser la vapeur en se servant de la même politique. Donc, de ce côté-là, je le comprends. Mais en même temps, lorsqu'on voit l'Alberta et l'Ontario, eux autres disent que c'est une politique qui est anticonstitutionnel, et là, ce n'est pas tout simplement parce qu'on donne des pouvoirs au fédéral, mais beaucoup plus qu'on attaque les provinces qui polluent le plus, donc qui vont être le plus pénalisées. Et c'est seulement du point de vue économique qu'eux autres, là, ça leur fait beaucoup plus peur. Donc, c'était mon sujet cette semaine, Monsieur Pouliot, qui trouve que le CO2 n'est pas de la pollution, c'est tout simplement qu'est-ce qu'on respire et ce que les plantes respirent et que ça nourrit les êtres humains autant que les animaux et la flore. Et aussi que, justement, la pollution atmosphérique n'est pas quelque chose, peut-être qu'on respire assez. Et la journée où on la respire trop, il sera probablement trop tard. Alors, merci. Et à la prochaine.
Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Étant donné les vacances, là, je vais vous en donner plusieurs. Il y a le Soyez électrique au Mont-Tremblant, c'est le samedi le 20 juillet 2019 de 9h à 16h à l'Hôtel de Ville de Mont-Tremblant. Une préinscription pour les essais nécessaires sur roulon électrique. Ensuite, il y a les essais de V, vente-trottoir de Rouyn-Noranda le 20 juillet 2019 de 10h à 16h au centre-ville de Rouyn-Noranda. Toujours inscription sur roulon électrique. Des essais de véhicules électriques à la traversée internationale du lac Saint-Jean, mardi le 23 juillet de 10h à 14h. C'est au centre sportif Benoît Lévesque de Roberval. Des essais routiers et de l'information. Roulon électrique au lac Mégantic, c'est dimanche 4 août 2019 de 13h à 16h, lors de la traversée évidemment internationale du lac Mégantic. Il y aura des essais routiers, vous devez vous inscrire au préalable sur Roulon électrique. Rencontre de véhicules électriques de Charlevoix, c'est dimanche le 4 août 2019 de 13h30 à 16h au stationnement municipal coin Nairn et Saint-Étienne, initiative d'essais de véhicules électriques des particuliers avec le soutien de l'AVEC. Jeudi branché, c'est jeudi le 8 août 2019 de 17h à 21h. C'est au marché de la gare de Sherbrooke, kiosque d'information et exposition de voitures électriques. Le concours de Château de Sable de Sept-Îles, samedi le 10 août, de midi à 15h, à Havre-Aubert, aux Îles-de-Madeleine. Il y a un kiosque d'information de l'AVEC et des véhicules électriques en démonstration au stationnement payant ou navette gratuite pour l'accès au site. L'auto-show de Gatineau, c'est le 10 et 11 août 2019, de 10h à 16h30. C'est à Gatineau. Des essais routiers et un kiosque d'information avec préinscription sur roulon électrique. Le Tintamarre acadien, c'est jeudi le 15 août de 17h à 19h à Havre-Aubert, aux Îles-de-Madeleine. Défilé de véhicules électriques, départ à partir du stationnement du Quai des Pêcheurs. Donc, vous pouvez participer au concours en décorant votre véhicule aux couleurs de l'Acadie. La journée de la famille de Sainte-Anne-des-Lacs, c'est samedi le 17 août 2019 de 10h à 16h à l'hôtel de ville de Sainte-Anne-des-Lacs avec des essais routiers. C'est une préinscription sur roulons électriques. Essai routier de la Coalition électrique pour la Rive-Sud et Unifor, c'est samedi le 24 août 2019 de 9h à 16h. C'est au marché public de Longueuil. Des essais routiers, exposition de véhicules électriques et kiosques d'information. Préinscription préalable sur roulons électriques. Méga Week-end électrique de Rimouski, c'est les 24 et 25 août 2019 à Rimouski. Il y a le Bière et Saveur de Chambly du 30 août au 2 septembre 2019 au Fort Chambly. Il y aura des navettes électriques par l'AVEC et des kiosques d'information. Il y a le rendez-vous Country de Saint-Michel-des-Saints samedi le 31 août de 10h à 16h à Saint-Michel-des-Saints. Essai de véhicules électriques, exposition, véhicules électriques et conférences. Vous pouvez également visiter la minière Nouveau Monde Graphite, de laquelle on a déjà parlé dans l'un de nos podcasts. Préinscription nécessaire sur roulons électriques. Dimanche branché de Saint-Élie-de-Caxton, c'est dimanche le 1er septembre 2019. Il y aura des essais de véhicules électriques et défilés ainsi que kiosques. Jeudi branché, le jeudi le 12 septembre 2019 de 17h à 21h, toujours au marché de la gare de Sherbrooke. Kiosque d'information, exposition de voitures électriques. Le festival Roulons électriques de Laval, samedi le 21 septembre. Essai de voitures électriques, exposants et animations. C'est au centre de la nature de Laval. Ça sera un gros événement à ne pas manquer. Exposition Objectif Planète, 28 et 29 septembre, de 10h à 17h. Essai de véhicules électriques et kiosque d'information. Et finalement, le Salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe, du 25 au 27 octobre 2019. Ceci conclut la présente balado-diffusion. L'AVEC remercie tous les collaborateurs, particulièrement aujourd'hui Christian Pelletier, Joël Côté, Ghislain Poisson, Stéphane Levert et Claude Gauthier. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais évidemment, l'Association des véhicules électriques du Québec appréciera en être avisée. Toutes les questions concernant l'émission peuvent être adressées à martin@aveq.ca. Pour les questions regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info@aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez le www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados, ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au www.aveq.ca/silence. Je vous souhaite à tous de magnifiques vacances estivales, un bon mois de vacances du podcast. En tout cas, moi, je vais passer un mois où je vais en profiter avec ma famille et en profiter pour passer du bon temps. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, à la fin août, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.